Soyez les bienvenus, il est 7h.
On ne peut pas partir en plein week-end. On doit partir avant ou alors après le confinement. Et comme on reprend lundi, on n'a pas le choix, il faut qu'on parte vendredi.
Fini, fin de vacances anticipées pour ne pas finir confiné. À Nice, les touristes font déjà leur bagage avec 2 jours d'avance sur le programme. Alors que Dunkerque rejoint la liste des restrictions renforcées et d'autres zones pourraient suivre, Jean Castex prendra la parole ce soir. Notre environnement toujours plus sous pression, un tiers des poissons d'eau douce menacés de disparition. Et puis le chef cuisinier de l'Elysée qui rend sa toque pour devenir ambassadeur de la gastronomie. Après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu. L'ambassadeur de l'Union européenne et persona non grata au Venezuela. Est-ce que l'Europe a vocation à faire la leçon à la terre entière et à se faire marcher sur les pieds? C'est la question du jour.
C'est la question et on y répond dans un tout petit quart d'heure. L'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, occupe-toi de tes oignons. Non, ça ne s'adresse pas à vous, Mathieu, mais à tout le monde, puisqu'on va se demander pourquoi on utilise cette expression, même si ce n'est pas la saison. Parce que la saison de l'oignon, normalement, c'est de septembre à novembre.
Très bon réveil à toutes et à tous. À tout à l'heure, Stéphane. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dunkerque est donc confiné à la sauce niçoise. Sorties et déplacements très restreints pour les 2 week-ends qui viennent à partir de demain soir. Et justement sur la Côte d'Azur, les effets de cette mesure annoncée il y a 3 jours se font déjà clairement sentir. Les touristes en vacances commencent déjà à faire leurs valises, Frédéric Michel.
Dans les rues d'Antibes, son appareil photo à la main, Cindy profite de ses dernières heures de vacances. Après l'annonce d'un confinement dans les Alpes-Maritimes pour les 2 prochains week-ends, plus question de rester 10 jours sur la Côte d'Azur.
Non, on n'avait pas prévu ça et du coup on rentre chez nous vendredi soir. Et oui, trop compliqué, rester enfermé, autant rentrer. Mais on comprend, il faut se protéger, il faut faire attention.
Arrivé lundi, cette famille originaire de Strasbourg n'a pas eu d'autre choix que d'écourter son séjour.
On était là jusqu'à dimanche normalement et puis du coup on va rentrer vendredi. Hein.
On ne peut pas partir en plein week-end, on doit partir avant ou alors après le confinement. Et comme on reprend lundi, on n'a pas le choix, il faut qu'on parte vendredi.
Et Nella, venue profiter de la mer avec son frère, regrette de devoir refaire si rapidement ses valises.
On aurait voulu rester plus, c'est un peu dommage, mais on reviendra une prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible de ce reconfinement local. Moi, je suis étudiante, ça fait 5 mois chez moi. Pour une fois, je prends des vacances, je sors, et je peux pas. Donc quel bonheur.
La préfecture prévient, les contrôles seront nombreux, de l'est à l'ouest des Alpes-Maritimes. Policiers et gendarmes assureront une présence dissuasive durant tout le week-end. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Et après Nice et Dunkerque, combien d'autres villes ou départements connaîtront bientôt le même sort? Jean Castex s'exprime ce soir à 18h. 10 départements au moins inquiètent les autorités. Au niveau national, 31 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. C'est un plus haut depuis le deuxième confinement.
Alors il y a quand même des signes d'espoir. La vaccination qui commence aujourd'hui dans les entreprises et chez les médecins généralistes, on va y revenir. Des vaccins dont les résultats nous rassurent.
À commencer par ceux de l'américain Pfizer. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à New York, une étude, Alexis, sur plus d'1 million de vaccinés en Israël confirme son efficacité à 94%. Un résultat publié ce matin dans une prestigieuse revue scientifique américaine.
Oui, c'est le New England Journal of Medicine qui rend compte de cette étude, une étude menée en conditions réelles sur 1 200 000 personnes. Les résultats sont très clairs. Le vaccin Pfizer réduit les cas symptomatiques de 94%, les cas graves de 92% et a diminué les hospitalisations de 87%. C'est une bonne nouvelle, assure le vice-président de Pfizer, car même après des essais cliniques contrôlés, on n'est jamais certain des résultats que cela donnera dans le monde réel. Les scientifiques se félicitent de la complémentarité entre les premiers essais cliniques et cette nouvelle base de données à grande échelle qu'est devenu Israël, pays le plus vacciné au monde. L'autre conclusion très positive de cette étude, c'est l'efficacité du vaccin pour toutes les tranches d'âge. Même les patients les plus âgés, les plus de 80 ans, sont protégés. Enfin, cette étude a été menée entre décembre et février, au moment où le variant britannique était présent en Israël. Pour les scientifiques, le vaccin est donc bien efficace contre cette souche du virus qui circule désormais dans de nombreux pays de la planète.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Vous le disiez, Mathieu, top départ de la vaccination chez les généralistes aujourd'hui, avec cette fois-ci le sérum AstraZeneca qui vient d'arriver dans les cabinets comme chez ce médecin lyonnais qui est allé voir Jean-Luc Boujon.
Enfin, elles sont là, les fameuses doses de vaccin AstraZeneca, dans le frigo du cabinet, apportées hier après-midi au docteur Florence Lapica par le pharmacien.
Ils sont là, il nous les a mis dans une petite boîte pour pas qu'ils se renversent. Donc ils seront tout prêts pour demain matin.
Il y en a combien ?
Il y a 5 flacons parce que nous sommes 5 médecins au cabinet à vacciner cette fin de semaine. On a une sonde et un thermomètre pour bien vérifier que le frigo reste à température. Là, il est à 8 degrés.
Donc c'est bon, là, donc, ça suffit.
Voilà, exactement.
Dans chaque flacon, 10 doses pour vacciner 10 patients. C'est le docteur Lapica elle-même qui les a appelés pour les convaincre, car souvent, ces patients, pourtant dans la tranche d'âge concernée, souffrant de diabète ou d'hypertension, étaient méfiants face à ce vaccin à l'efficacité moindre.
Ils étaient très hésitants au départ.
Vous avez dû les convaincre, vous leur avez dit quoi ?
Qu'on ne peut pas attendre le Pfizer. En fait, un certain nombre de patients veulent attendre l'autre vaccin qui est plus efficace. C'est vrai, si on le pouvait, on se ferait tous vacciner par le plus efficace. Mais en fait, on ne le peut pas. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire à la population. On ne peut pas attendre tous le Pfizer. On n'y en aura pas à cette dose. Donc il faut accepter de se faire vacciner par l'AstraZeneca.
Argumenter, rassurer, mais surtout ne pas forcer les patients. C'est le leitmotiv du docteur Lapica qui explique aussi que pour vaincre le Covid, aucune arme ne peut être négligée. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
7h06 sur Europe 1. 6 adolescents présentés à un juge d'instruction après les rixes mortelles du début de semaine dans l'Essonne.
Les responsables de la mort de Lily Bell, cet ado de 14 ans tué lundi à Saint-Chéron. Parmi eux, l'auteur du coup de couteau mortel, un jeune homme âgé de 16 ans.
C'est une réalité dans toutes les villes de France. 8 femmes sur 10 ont déjà subi du harcèlement de rue.
Et on vous le révélait sur Europe 1 il y a quelques jours, depuis la loi Chiappa de 2018, plus de 2600 amendes ont été dressées. C'est un début, on va dire, mais c'est encore loin de suffire. La preuve, de plus en plus d'applications sur smartphone voient le jour pour apporter une aide concrète sur le moment. Justin Morin.
Quand elle rentre chez elle le soir, Nicole, 18 ans, n'est jamais rassurée à l'idée de croiser un groupe d'hommes. Elle a fini par télécharger l'application Secura, qui permet en un clic d'alerter et d'envoyer sa géolocalisation à l'une de ses amies.
Il y a eu déjà des regards, des murmures. Qu'est-ce que tu fais là toute seule, petite poulette, je t'ai perdue. Du coup, c'est rassurant un peu d'avoir cette application-là.
Secura, c'est à peu près 500 téléchargements par semaine. Citons aussi Qui-Vive, Street Alert ou Sorority, lancée il y a 6 mois. Elle s'appuie sur une communauté de près de 11 000 femmes. En cas d'alerte, l'application vous met en relation avec d'autres utilisatrices situées près de vous. Sa fondatrice, Priscilla Routier-Triard.
Oui, il faut multiplier les initiatives et les personnes qui travaillent dessus et surtout, ça prouve qu'il y a de plus en plus de prise de conscience.
Pour avoir une communauté sûre, un contrôle strict est effectué. Près des 2/3 des demandes d'inscription sont rejetées. Le problème, c'est que ce travail n'est pas toujours réalisé, alerte Diratan Gai, pionnière du secteur avec l'appli Appel, 50 000 téléchargements créés il y a 6 ans.
Il y a une différence entre vouloir agir en soutien des victimes et avoir des bons réflexe. C'est un vrai sujet sur lequel il faut se définir des règles parce que ces applications sont censées venir en soutien et pas aggraver des situations.
La représentante associative a fait part de ses craintes à la ministre Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle doit lui remettre un rapport dans les mois prochains.
Justin Morin.
Et Marlène Schiappa, vous évoquiez la loi Schiappa de 2018, sera mon invitée ce matin à 8h15, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. On va beaucoup parler de ce rapport qu'elle a commandé sur les dérives sectaires, en particulier de l'impact du Covid sur ces dérives sectaires.
7h08 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger ce matin et un deuxième Français détenu en Iran. Outre la chercheuse Fariba Adelkha, dont Paris demande toujours la libération, on apprend en effet qu'un touriste d'une trentaine d'années a été arrêté au mois de mai dernier. Ça fait donc 9 mois qu'il croupit dans les geôles iraniennes. Nicolas Feldman.
Le Quai d'Orsay confirme la détention mais ne s'étend pas sur le profil de cet homme. Tout juste, nous dit-on, qu'il bénéficie aujourd'hui d'une protection consulaire et a pu, à ce titre, parler à ses proches ainsi qu'à des représentants français. Mais d'après l'hebdomadaire Le Point, il s'agirait d'un touriste de 35 ans présent en Iran pour faire le tour du pays en van. Et c'est en mai qu'il aurait été arrêté à la frontière avec le Turkménistan dans une région désertique du nord-est, loin des circuits touristiques habituels. Alors l'homme est depuis détenu dans une prison de Mashhad, deuxième ville du pays, une prison décrite par certains activistes comme un enfer. D'après l'un de ses proches, il est aujourd'hui en bonne santé, mais son avocat iranien dénonce sa détention, une détention jugée illégale. Il fait face à des accusations contradictoires et fausses, écrivait-il sur Twitter. Contacté hier soir, ni l'ambassade d'Iran en France, ni les officiels à Téhéran n'ont donné suite à nos demandes.
Nicolas Feldman. Facebook annonce un accord avec l'Australie. Le réseau social va payer 1 milliard de dollars pour financer des contenus d'actualité. L'Australie vient de promulguer une loi qui force les géants du numérique à rémunérer enfin les médias pour les contenus d'information diffusés depuis des années sur leur plateforme, sans aucune contrepartie.
Et on en vient à cette disparition silencieuse mais inquiétante qui a commencé dans nos rivières.
Un tiers des espèces de poissons d'eau douce, Mathieu, sont en train de s'éteindre. C'est ce que montre un rapport d'une quinzaine d'ONG, dont le WWF. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Parmi ces espèces, des poissons très connus, comme les saumons par exemple.
Oui, car ils font partie, comme les anguilles, des poissons migrateurs, espèces parmi les plus menacées. Ils ont décliné de 93% en Europe depuis les années 70. Même problème avec les gros poissons de plus de 30 kilos, comme l'esturgeon, qui vit pourtant dans nos rivières depuis les dinosaures. Dans les deux cas, les raisons sont la surpêche, le braconnage, mais surtout les barrages qui les empêchent de se déplacer et de se reproduire. Claire Baffer, chargée de mission au WWF Europe.
Nos rivières sont de plus en plus fragmentées. On a construit, et notamment en Europe, énormément de barrages, alors pour l'irrigation, pour l'hydroélectricité. Mais aujourd'hui, ces barrages constituent des obstacles à la migration des populations de poissons migrateurs.
Rien que sur le sol français, il y a plus de 60 000 obstacles recensés par l'Office français de la biodiversité. 90% ne sont plus utilisés et ne servent donc pas l'économie. Le rapport recommande donc le démantèlement urgent de ces constructions, car les ONG rappellent que ces poissons ont une utilité fondamentale pour les écosystèmes des lacs et des rivières. Ils sont des proies et des prédateurs et garantissent la propreté des eaux.
Virginie Riva. Concernant toujours la biodiversité, cette première en France, un an de prison ferme pour un braconneur d'oiseaux, un septuagénaire de Toulon qui détenait dans ses congélateurs 75 rouges-gorges capturés à la glu. Le rouge-gorge est une espèce protégée et la chasse à la glu une pratique suspendue en France.
Je ne savais même pas que ça se mangeait le
rouge-gorge. En brochette, figurez-vous, dans le Var, c'est pas une blague, c'est la défense de ce septuagénaire. Tu as généré à l'audience hier les brochettes de rougeur. J'ai pas que c'est une tradition.
Tout sauf à la brochette.
Je vous promets que c'est vrai.
Allez, je peux vous le dire avec une certaine assurance, même si c'est pas vérifié, mais normalement on ne cuisine pas de rouge-gorge à l'Élysée.
Clairement.
Dans les fourneaux de l'Élysée. Le chef des présidents, Guillaume Gomez, rend son tablier.
25 ans de bons et loyaux services sans rouge-gorge. Donc pour l'amateur de bonne chère, Chirac entre autres, et puis ses successeurs Sarkozy, Hollande, Macron, Guillaume Gomez qui dépose donc sa toque pour un costume d'ambassadeur. Pierre Herbulot, il devient le premier ambassadeur de la gastronomie française.
Guillaume Gomez, représentant personnel du président de la République auprès des acteurs et des réseaux de la gastronomie et de l'alimentation afin de promouvoir les arts culinaires de la France. Le nouveau titre du chef au col bleu-blanc-rouge ne tient pas sur une carte de visite. Sa mission est pourtant simple, faire rayonner la gastronomie française mise à mal par la crise sanitaire, lui redonner de l'attractivité, un rôle de représentation mais aussi de conseil. Guillaume Gomez connaît tout le monde dans le milieu, les chefs, les agriculteurs, les artisans. Depuis la première fermeture des restaurants, il est passé de cuisinier à médiateur, un relais entre la profession et Emmanuel Macron dont il a la confiance. C'est depuis un bureau du ministère des Affaires étrangères qu'il va remplir ses nouvelles fonctions, loin de ses fourneaux des sous-sols du palais de l'Élysée. En attendant la nomination de son successeur, ses deux adjoints, 20 ans de maison, auront la responsabilité des cordons bleus présidentiels, le plat préféré du locataire actuel.
Et je suis ravi, je vous le dis, je vous le redis, le chef Guillaume Gomez, notre ambassadeur gastronomie désormais, eh bien il sera mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout à l'heure, on va parler un peu de cuisine, bien sûr.
Deux tout derniers mots de sport pour vous dire qu'une enquête est demandée par la ministre Roxana Maracineanu sur les origines du cluster qui fait tache au sein du 15 de France de rugby en plein tournoi des Six Nations. Et puis en foot, décidément, les Français brille en Ligue des Champions après le ciseau somptueux d'Olivier Giroud qui a donné la victoire à Chelsea il y a deux jours. Hier soir, c'est le défenseur Ferland Mendy qui a libéré le Real Madrid. Victoire 1-0 en huitième de finale aller contre Bergame dans les toutes dernières minutes d'une très belle frappe enroulée.
Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. On ne prend plus l'avion, vous l'avez remarqué, mais les compagnies aériennes coûtent une fortune aux contribuables. Il va falloir encore les renflouer. Heureusement, il y a quelques signes d'espoir.
Avant le regard international de Vincent Hervouet, et tiens, écoutez le ministre vénézuélien des Affaires étrangères qui expulse la représentante de l'Union européenne à Caracas.
Oui. Por decisión del presidente Nicolás
Maduro. Sur décision du président Maduro, nous avons remis en main propre à Madame Isabel Briant, qui a été ces dernières années chef de la délégation de l'UE au Venezuela, une déclaration de persona non grata. Elle a 72 heures pour quitter le territoire vénézuélien, dit-il. Question sur la diplomatie européenne dans un instant. Bon réveil à tous. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Elle va reprendre l'avion. Le Venezuela déclare l'ambassadrice de l'Union européenne persona non grata et elle a 72 heures pour faire ses bagages.
Oui, les députés vénézuéliens ont voté comme un seul homme le bannissement d'Isabel Briante. C'est l'avantage d'avoir un parlement à sa botte depuis les élections de décembre. Les bolivariens sont 256 sur 277 et les autres sont des compagnons de déroute. L'opposition a boycotté le scrutin. Officiellement, elle ne représente plus rien et elle n'est représentée nulle part. À l'étranger, c'est le contraire. Son leader, Juan Guaido, est reconnu par les États-Unis, les Européens, les pays latino-américains comme président de transition. Et le problème de ce président de transition, c'est qu'il n'y a aucune transition à Caracas. C'est même le contraire. Le régime bolivarien s'est verrouillé, bunkérisé, criminalisé encore plus depuis décembre.
Et c'est pour cela que l'Union européenne a décidé lundi de renforcer les sanctions.
Elle a rajouté 19 noms à la liste des caciques qui sont interdits de séjour en Europe. Alors, comme ils ne risquent pas de venir, puisque les frontières sont fermées, la mesure est très symbolique. Elle ne devrait pas les perturber. Ils ont d'autres soucis. Les pénuries, la disette, la violence, la fuite éperdue de tout ce qu'ils peuvent à l'étranger, l'effondrement de l'économie. Le Venezuela de Maduro est champion du monde de l'inflation, officiellement 3000% l'an dernier. La révolution bolivarienne est aussi championne de l'inflation du verbe. C'est avec indignation, en dénonçant l'ingérence, l'insulte aux lèvres, que les députés ont voté l'expulsion d'Isabel Briante.
À quoi bon des sanctions symboliques ?
À quoi bon une diplomatie européenne ? Il y a 15 jours, son patron, Joseph Borrell, s'est rendu en Russie pour faire la leçon à Sergueï Lavrov, qu'il a humilié publiquement. Maintenant, c'est l'ambassadeur à Caracas qui est viré comme une malpropre, alors que l'Union européenne déverse des millions d'aides humanitaires. Est-ce la vocation de la diplomatie européenne de servir de paillasson sur lequel essuyer ses brodequins ? Theodore Roosevelt avait une recette pour se faire entendre, parle doucement et porte un gros bâton. L'Union européenne fait le contraire, elle glapit sans cesse et elle est désarmée. Theodore Roosevelt s'était doté d'une formidable marine de guerre et il a ensuite décroché le prix Nobel d'ailleurs en servant de médiateur de la guerre entre le Japon et la Russie. L'Europe est un prix de vertu qui fait la leçon au reste du monde, à la Birmanie, au Bélarus, à Hong Kong, mais elle exaspère et son influence est dérisoire.
Vincent Hervouet, Le Regard International, tous les matins sur Europe 1, 7h21. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au programme ce matin du rugby à nouveau.
11 bleus positifs au Covid et pourtant France-Écosse aura bien lieu dimanche pour le tournoi Destination. Allez, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, le pire n'est jamais certain.
Hein. Alors juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern, bien sûr, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
France-Écosse aura bien lieu dimanche dans le tournoi Destination. Le comité d'organisation a donné son feu vert hier. C'est un 15 de France largement diminué qui va tenter de remporter sa troisième victoire en trois matchs. Pour vous, puisqu'il faut y aller, eh bien allons-y, le pire n'est jamais certain.
Oui, moi je pensais qu'il fallait le reporter ce match, hein. On en a parlé mardi parce que je me fie naïvement aux avis des médecins et puis parce qu'une équipe qui a perdu 11 joueurs positifs au Covid et dont les remplaçants n'ont même pas pu s'entraîner normalement cette semaine, ça ressemble plus vraiment au 15 de France et ça fausse légèrement le tournoi Destination. Mais comme les nouveaux tests effectués sur les joueurs encore disponibles sont négatifs, le comité d'organisation a donc donné son feu vert au maintien de ce France-Écosse dimanche. Enfin disons plutôt de France bis Écosse, hein. Soit après tout, on ne peut pas en vouloir aux Écossais d'avoir milité pour jouer comme prévu. Cette bonne guerre, hein, ils veulent profiter de la situation. Et puis ce ne sont pas eux qui ont percé la bulle sanitaire soi-disant efficace autour de l'équipe de France. La ministre des Sports a d'ailleurs demandé à la Fédération de mener une enquête pour savoir comment on en est arrivé là, c'est son rôle. Mais les joueurs, eux, ne vont pas non plus passer des jours et des jours à chercher la taupe contaminée, hein, le fameux patient zéro. Alors allons enfants, faisons contre mauvaise fortune bon cœur et jouons ce match. De toute façon, on n'a pas le choix.
Alors hein. Le 15 de France ne va donc pas partir favori contre l'Écosse ?
Mais à la place des Écossais, j'éviterai quand même de pérorer. Hein. Vous vous souvenez des Anglais qui parlaient de farce et de mascarade quand ils ont affronté un 15 de France composé de petits jeunes en manque de repères internationaux au mois de décembre. Il s'en était finalement sorti miraculeusement après prolongation, avec beaucoup plus de soulagement que de dédain. Et là, la presse écossaise remet le couvert avec les mêmes titres rigolards à base de French farce. Décidément, c'est difficile de retenir les leçons du passé. Hein. Évidemment que les Écossais ont plus de chance face à ces bleus bis que contre l'équipe qu'ils auraient dû affronter. Mais piquer au vif des remplaçants qui ont tout approuvé, ça peut jouer des tours. Hein. Ce 15 de France-là va manquer d'entraînement, d'expérience, de sérénité et sans doute de pas mal d'autres choses. Mais puisqu'on a dit qu'on faisait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est sûr qu'ils vont y mettre tout leur cœur dans ce match. C'est aussi l'occasion ou jamais de tester la profondeur de banc de cette équipe. Franchement, ça commence à suffire cette histoire de French farce. Hein. Les remplaçants français ont déjà montré leur fierté dans la tourmente. C'est le moment de recommencer. One more time. Hein. On a peut-être perdu Daft Punk cette semaine, mais on peut encore montrer ce qu'est la French touch. Touch, hein, pas farce.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. Il est 7h26 et nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, une expression pas très aimable qui s'utilise quand on est un peu courroucé, on dit à quelqu'un
Occupe-toi de tes oignons.
Oui, occupe-toi de tes oignons, c'est une façon de dire à son interlocuteur d'aller voir ailleurs, de se mêler de ses affaires, quoi.
Exactement. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, dans le centre de la France, on avait pour coutume de laisser un petit lopin de terre à l'attention des femmes. Alors je regarde Virginie Fulpin, parce qu'évidemment, l'explication de cette expression est un peu, comment dire,
19e
pas très féministe.
Siècle.
Oui, je sens que je n'ai pas forcément l'impression.
Ouais, voilà. Je suis pas sûr que Virginie jardine beaucoup, je ne sais pas.
Dans ma tête.
Trop généreux. Ah, ces hommes, ils étaient trop généreux. Il laissait les femmes cultiver cette plante potagère pour que, les jours de marché, en allant vendre quelques bottes, elles se fassent un peu d'argent de poche pour acheter des petites choses qui leur plaisaient. Petit souci, à la moindre dispute conjugale, quand ces dames se mêlaient d'un peu trop près des affaires familiales, l'insulte fusait dans la foulée comme un reproche implacable. « Oh, mêle-toi donc de tes oignons !» Allez, je vous dois toute la vérité, il existe une autre explication à cette expression. L'oignon, ça désigne également une partie très intime de l'anatomie. Occupe-toi de tes oignons, c'est une manière de dire, plus vulgairement, occupe-toi de tes fesses.
Décidément, cette semaine.
Une autre petite info amusante sur l'oignon, ça vient du latin « unio », qui signifie « unité ». Ben oui, en effet, l'oignon n'a qu'un bulbe. C'est étonnant, non ? Terminons sur une citation de Cavanagh. « Si vous plantez un oignon sous un saule, vous n'obtiendrez pas forcément un saule pleureur. »
Ah, oh, génial. À 16h tout à l'heure, on vous retrouve avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit le révolutionnaire Maximilien de Robespierre, qui a emporté avec lui le régime de la terreur, le président américain Richard Nixon, destitué suite au scandale du Watergate, et Félix Baumgartner, qui a réalisé un véritable exploit en faisant un saut en chute libre à 39 km d'altitude, a passé le mur du son sans se poser de questions. Leur point commun, Mathieu ?
Ben oui.
Ils sont montés et tombés de haut.
Je me demandais où vous alliez mettre Félix Baumgartner là-dedans. À tout à l'heure, 16h, avec Mathieu Noël, Stéphane. Et à 7h28, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo, Laurent.
Et avec des températures en baisse, chers amis, couvrez-vous sans plus, hein, puisque les températures actuelles se situent entre 6 et 15 degrés, ça n'est pas encore le grand froid. Et il n'y en aura pas de grand froid, il y aura simplement une baisse des températures dans les jours qui viennent, et notamment demain et après-demain. Et la semaine prochaine sera beaucoup plus fraîche que celle que nous avons vécue, mais le soleil devrait revenir à partir de dimanche. Voilà la grande tendance telle qu'elle se dessine pour l'instant. Je voudrais vous dire que cet après-midi, nous aurons 12 degrés à Trouville, 13 à La Rochelle, 15 à Nantes, 16 à Marseille, 17 à Dijon et Paris, 18 à Bordeaux et Strasbourg, 19 à Belfort et 20 degrés à Clermont-Ferrand et Lyon. Ce sont les températures qui sont quand même au-dessus des normales saisonnières. Tiens, à propos de normales saisonnières, il faudra un jour que je vous explique comment on les calcule quand même. Parce qu'on en parle sans arrêt, mais on ne sait pas exactement.
C'est normal, mais on va prendre le temps un jour.
Je vous le dirai, je vous le dirai. Et aujourd'hui, donc de la pluie sur la Bretagne, le Cotentin, elle est déjà là sur la Bretagne, hein, Brest, Landivisiau, il pleut. Le Cotentin, donc la côte normande, Picarde, le Pas-de-Calais, un ciel gris sur la Loire-Atlantique, la Champagne-Ardenne, du soleil sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, Rhône-Alpes et la Provence comme la Côte d'Azur, et un ciel nuageux sur la région parisienne, le Limousin, le Centre et le Poitou-Charentes. Sur Paris, il ne pleuvra qu'en fin de journée, en fin d'après-midi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
J'espère qu'il va s'en sortir. Ce serait tellement étrange qu'il disparaisse. Je n'ai jamais connu que lui avec la reine à la tête de la monarchie.
Et le Royaume-Uni retient son souffle. Une semaine déjà que le prince consort est hospitalisé pour une infection. L'époux de la reine d'Angleterre est âgé de 99 ans. Le gouvernement change de ton face à l'épidémie. Après Nice et Dunkerque, d'autres territoires pourraient être reconfinés. L'incroyable scénario de la rixe entre bandes qui a coûté la vie à un ado de 14 ans dans l'Essonne. Les plus jeunes devaient s'affronter sous les yeux des grands. Et puis manger du poisson, c'est bon pour la santé, mais comment savoir si votre thon en boîte ou votre cavillaud pané a été pêché de manière durable ? Réponse à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, la touche âme, Bertrand Chameroy bien sûr. Après 25 ans dans les cuisines de l'Elysée, la reconversion du chef Guillaume Gomez, c'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique Nicolas Bétou, bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
De quoi parle-t-on ce matin ?
Une petite devinette, en politique justement, qu'est-ce que c'est qu'une polémique autoportée ?
Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir, chers amis. Juste avant, Nicolas Cantelou, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et voilà 8 jours que le prince Philippe, duc d'Édimbourg et mari de la reine Elisabeth II, est hospitalisé. À 99 ans, il est soigné pour une infection. Et malgré les nouvelles rassurantes données mardi par son fils Edward, chez les Britanniques, l'inquiétude persiste. D'ailleurs, à Londres, ils sont nombreux à tenter de glaner la moindre information devant la clinique Edward VII, où séjourne le prince consort. Et tous espèrent que God save the King. Anaïs Cordoba.
Autour de cette clinique chic de l'ouest londonien, l'ambiance a changé depuis que le prince Philippe y a été admis. D'ordinaire calme, la rue est envahie par les caméras et des policiers filtrent chaque entrée du bâtiment. La santé du prince inquiète tout le pays, comme en témoignent ses passants.
C'est préoccupant vu son âge, il est très fragile. On se réjouit de fêter le jubilé de la reine l'an prochain. Ce serait tellement dommage s'il n'était pas là pour y assister.
J'espère qu'il va s'en sortir. Ce serait tellement étrange qu'il disparaisse. Je n'ai jamais connu que lui avec la reine à la tête de la monarchie.
Philippe arrive 5e dans la liste des membres de la famille royale préférée des Britanniques. Il doit sa popularité à sa loyauté indéfectible envers la reine, comme l'expliquent ses Anglais.
Ce serait terrible pour la reine si le pire arrive. Il est son roc, il est à ses côtés depuis toujours et la soutient pour exercer le métier le plus difficile au monde.
C'est un modèle d'exemplarité. Il assume depuis longtemps un rôle difficile de numéro 2 dans l'ombre de la reine.
Selon les dernières nouvelles données par le palais, le prince répond bien à son traitement, mais plusieurs jours d'hospitalisation sont encore nécessaires et aucune date de sortie n'est pour l'instant fixée. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
À la une de l'actualité, les 250 000 habitants de Dunkerque et son agglomération connaîtront donc le même sort que Nice, reconfinement le week-end, sauf motif impérieux.
À partir de demain soir, 18h jusqu'à lundi matin, 6h, il faudra rester à la maison dans une soixantaine de communes, mais d'autres zones du territoire vont venir grossir la liste. Le Premier ministre Jean Castex les dévoilera ce soir à 18h. Une nouvelle stratégie du cas par cas pour l'exécutif.
Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Après l'optimisme des dernières semaines, aujourd'hui, le gouvernement est inquiet.
Oui, et d'ailleurs, le ton a changé. La situation se détériore et l'exécutif prépare déjà les esprits. Après Nice et Dunkerque, les autorités n'excluent pas d'étendre les restrictions à d'autres départements. Ce soir, Jean Castex se détaillera la liste des territoires qui inquiètent. Matignon veut y amorcer des concertations locales. Même si un conseiller le reconnaît, chaque département ne pourra pas avoir ses propres mesures. Pour l'instant, la dentelle, ça tient, assure un autre. Mais jusqu'à quand ? La perspective d'un reconfinement national n'est pas complètement écartée. Tout est fait pour l'éviter, explique hier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui prévient bien, il n'y a pas de certitude que nous y parviendrons. Le compte à rebours lancé par le président arrive bientôt à son terme. Vendredi, Emmanuel Macron avait dit se laisser 8 à 10 jours pour apprécier l'évolution de la situation sanitaire. Avec les variants qui prennent le dessus, un ministre confie, on est dans un moment de vérité sur l'épidémie.
Claudia Bertram du service politique et par ailleurs les 27 dirigeants des États membres de l'Union européenne se réunissent virtuellement aujourd'hui et demain pour parler de la gestion de la pandémie dans l'UE. Au programme des discussions, les vaccins, la fermeture des frontières ou encore le plan de relance économique.
Dans l'Essonne, un juge d'instruction va être saisi aujourd'hui, 2 jours après le meurtre d'un adolescent de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine.
Tué par un coup de couteau au thorax après une rixe entre bandes rivales. Et Gladys Laffitte, on en sait déjà un peu plus sur le scénario de cette bagarre.
Oui, cela s'est passé mardi vers 16h sur le terrain de pétanque de Boussy-Saint-Antoine. 2 bandes rivales qui avaient décidé de s'affronter, on ne sait pas pourquoi pour le moment. Une bande venant de Quincy-sous-Sénart, l'autre d'Épinay-sous-Sénart. Des bandes composées de 30 à 40 jeunes. L'idée, c'était que les grands, âgés de 17 ans, laissent les plus petits de 13 et 14 ans se battre sous leur surveillance. Ils se sont donc battus pendant que les plus grands étaient en retrait. Alors qu'un jeune de 15 ans d'Épinay-sous-Sénart allait au contact de ses rivaux, il s'est retrouvé encerclé et c'est là qu'il a donné des coups de couteau. Un mortel au thorax donc tuant un adolescent de 14 ans et un autre blessant sévèrement un jeune de 13 ans à la gorge, même si ses jours ne sont plus en danger. Juste après la bagarre, 6 mineurs ont été interpellés par la BAC, tous portaient des traces de sang et un 7e s'est présenté de lui-même au commissariat. C'est l'auteur des coups de couteau. En garde à vue, il dit regretter son geste.
Lundi, une autre adolescente de 14 ans avait été tuée dans les mêmes circonstances, toujours en Essonne.
Un jeune de 16 ans a été placé hier en détention provisoire. Il a reconnu être l'auteur du coup de couteau mortel. 5 autres mineurs sont sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître en Île-de-France.
Et puis il est peut-être un peu tôt pour préparer le repas de midi, mais si au menu vous prévoyez de la brandade de morue ou du poisson pané, jetez un œil à l'emballage.
Et l'association 60 millions de consommateurs publie une enquête avec l'ONG WWF sur les produits transformés venant de la mer, avec les produits bons à consommer et ceux à éviter au contraire. Alors Nicolas Feldman, comment faire le bon choix dans nos supermarchés ?
Premier réflexe, repérer les bonnes marques, celles qui détaillent clairement les zones et les modes de pêche. À éviter par exemple la pêche à la senne, cette technique qui consiste à encercler les poissons. Autre recommandation, éviter aussi les espèces importées des pays hors Union européenne. Difficile en effet de connaître leurs conditions de pêche et d'élevage. Enfin, 60 millions de consommateurs vous mettent en garde. Plutôt que de vous fier uniquement au label des seules marques et distributeurs, eh bien privilégiez des labels connus et officiels. Les experts citent par exemple MSC, Pêche Durable ou Pavillon France, autant de garanties pour un impact limité sur l'écosystème et l'environnement.
Et puis il y a deux jours, Mathieu, vous parliez dans ce studio avec le directeur musique de Spotify de ce nouveau podcast lancé par Bruce Springsteen et Barack Obama. Eh bien Bruce Springsteen, justement, vient décoper d'une amende de $540 pour avoir consommé de l'alcool dans un parc national américain. La star du rock buvait, selon lui, deux petits shots de tequila.
Il n'y en a pas le droit. Bah non. Apparemment. $540 d'amende, ça rigole pas.
Ah non.
Pour Bruce Springsteen, le boss. Merci Sophie Hachène, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Je reçois Marlène Schiappa à 8h15. Europe 1 peut vous révéler ce matin que la crise du Covid a favorisé le développement des mouvements sectaires. Un rapport remis à la ministre déléguée que l'on va détailler avec elle, Marlène Schiappa, invitée politique dès la matinale. Le tête-à-tête Europe Matin, dans un tout petit instant, avec le désormais ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'Interville revient. La mauvaise, c'est que c'est Jean Castex qui l'organise.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Alors, ah merde, le train est complet. Bon, alors.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Pardon Mathieu, pardon. J'essaie d'organiser mon week-end, mais alors c'est une de ces galères. C'était déjà pas évident avant avec les prix qui changent en 3 minutes, mais alors là en plus, maintenant faut checker la carte des taux d'incidence. Ce que j'avais pas fait, parce que j'avais prévu d'aller à Nice, mais ils ont reconfiné. Heureusement c'était des billets remboursables, donc je m'étais pris un petit Ouigo Paris-Dunkerque, pas cher en plus. Et bam, hier après-midi, Olivier Véran a annoncé un confinement le week-end, donc je cherche un autre point de chute. Mais après Nice et Dunkerque, je me ferai pas avoir une troisième fois. J'ai compris l'astuce, faut éviter toutes les villes qui organisent des carnavals. Donc je fais une croix sur Granville, une croix sur Chalon-sur-Saône. Non, il faut être vif, hein, ça va vite. Gabriel Attal l'a dit hier en compte-rendu du Conseil des ministres. Dès que la situation l'impose, nous n'hésitons pas à prendre des mesures et des décisions rapides et fortes. Bel hommage au film Podium. Nous ne le savions pas, mais notre Premier ministre, c'est Bernard Frédéric.
Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître.
Et donc ce soir, comme le veut la tradition, le Premier ministre Bernard Frédéric s'exprimera à 18h dans un point presse. Il devrait annoncer d'autres confinements locaux, mais où ?
Eh bien, chers amis, bienvenue pour ce nouveau point presse Interville édition Covid. Je vous rappelle que cette semaine, Nice et Dunkerque ont perdu. Alors, qui ressortira gagnant de la compète ? Quelles villes seront épargnées ? Lesquelles seront reconfinées ? Les concurrents sont motivés. Plusieurs départements en lice. L'Île-de-France, le Grand Est et les Hauts-de-France vont s'affronter. Ce soir encore, plein d'épreuves. Nous allons jouer à la moyenne glisse. Ah, on va s'amuser avec les moyennes glissantes. Faites attention, elles glissent beaucoup. C'est redoutable. Vous retrouverez également votre épreuve préférée, la course au vaccin. Je rappelle le principe, les maires déguisés doivent arriver à interpeller Jean Castex et se faire entendre pour obtenir un maximum de doses pour leur municipalité et les ramener dans leur ville. Et puis tout ce petit monde sera départagé lors de l'épreuve reine, le mur des champions. Non, lâche la perche, Paris, c'est perdu. Paris, lâche la perche, on reconfine. À ce soir, 18h, à vous Mathieu, à vous Cognac G.
Merci Bertrand Chameroy. Vous nous ferez Yves Mourousi un jour ?
Bonjour.
L'intouchable, c'est tous les matins à 7h40 et c'est sur Europe 1 par... Je sais pas, c'est un jeune avec des références de vieux ou un vieux dans un corps de jeune. Je suis perdu avec
Moi-même, Chameroy. Je ne sais pas.
Il est 7h42, très bon réveil à tous sur Europe 1. On vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
7h42, 25 ans à l'Élysée au service de 4 présidents de la République. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, avant le président Macron. Guillaume Gomez quitte les cuisines pour devenir... le premier ambassadeur de la gastronomie. Les enjeux, les restaurants, les producteurs, son expérience aussi. J'appelle Guillaume Gomez, mon invité ce matin.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Guillaume Gomez.
Bonjour Mathieu Béliard.
25 ans à l'Élysée, 4 présidents de la République, leurs invités, les chefs d'État et de gouvernement. Vous aviez fait le tour, Guillaume Gomez. Pourquoi quitter l'Élysée maintenant ?
Non, on ne fait jamais le tour d'une fonction comme celle-ci. Vous savez qu'on a le privilège de travailler pour les présidents de la République. Vous savez, je suis arrivé à l'Élysée en 97, j'étais appelé du contingent. J'ai gravi les échelons, j'ai travaillé pour ça. Et c'était une belle occasion pour moi de me mettre au service encore plus des producteurs, des artisans, des restaurateurs, des chefs et de toutes celles et ceux qui font notre gastronomie.
Vous l'avez annoncé personnellement au président de la République, je crois.
Vous êtes bien renseigné, Mathieu Belair.
Je parlais de l'annonce auprès du président de la République parce que changer de chef à l'Élysée, pour lui, c'est comme un remaniement. Ça implique le changement d'un personnel essentiel du palais de l'Élysée.
Bah, vous savez, je suis le quatrième chef depuis le général de Gaulle. Ça s'est toujours fait dans la continuité. Vous savez, il y a un président, Nicolas Sarkozy, qui nous avait défini comme ça. Vous êtes la continuité de l'État.
Alors, je me dois de vous prévenir, Guillaume Gomez, vous avez conscience que... À l'extérieur de l'Élysée, c'est un peu différent en ce moment. Vous quittez l'une des seules cuisines où l'on peut exercer en ce moment.
Alors, ce n'est pas la seule cuisine. Vous savez, nous, je me définis comme ça depuis de nombreuses années. Je suis un chef de la restauration collective et bon nombre de mes collègues et mes collaborateurs dans les différents ministères, bien sûr, mais pas seulement, dans toutes les administrations, également dans nos écoles, dans nos crèches, dans les prisons. Toutes celles et ceux, tous ces cuisiniers qui œuvrent pour la République française au quotidien sont au travail.
On estime que vous en êtes à 2 millions de repas à l'Élysée. Allez, je tente la question la plus large. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous revient en particulier?
Il y en a eu tellement, non, je ne pourrais pas vous en citer un en particulier.
Vous avez servi, je le disais, quatre présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et donc Emmanuel Macron. Guillaume Gomez, quel est le président le plus gourmand ou alors lequel s'est le plus intéressé, on va dire, à vos cuisines?
De l'émotion, bien évidemment, à vous parler de Jacques Chirac, que j'ai servi pendant 10 ans, qui a vu toute mon évolution. J'ai passé mon titre de meilleur ouvrier de France. Il m'a remis ma médaille de meilleur ouvrier de France. Donc énormément d'émotion avec Jacques Chirac, qui était le gastronome que l'on connaît. Nicolas Sarkozy, qui pourtant est souvent décrié comme quoi la cuisine, c'est faux. Je le dis souvent, c'est le président Nicolas Sarkozy qui a voulu notamment le classement du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Et d'ailleurs, dans vos nouvelles fonctions, j'ai vu que vous serez rattaché au ministère des Affaires étrangères parce que votre rôle, oui, d'ailleurs, ça l'est déjà, un rôle de diplomatie aussi. Tiens, les dîners officiels, les réceptions de chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée, ça doit être un vrai casse-tête de mettre en place un menu.
Oui, vous savez, ce rôle de la diplomatie culinaire, de la gastronodiplomatie, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, on ne l'a pas inventé. Talleyrand l'avait dit, donnez-moi de bons chefs, je vous donnerai de bons traités. Où on dit que si la politique divise les hommes, la table les réunit. Et si on peut, en effet, œuvrer tous ensemble dans le sens du bien commun de chaque nation, donc la gastronomie diplomatique est quelque chose qui est connu et reconnu. Et c'est pas uniquement grâce à ses chefs, cuisiniers, pâtissiers ou artisans. C'est avant tout grâce à nos producteurs qui nous donnent le meilleur du terroir de France.
Vous avez eu quelques challenges, Guillaume Gomez. Je pense à un repas express entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama, par exemple.
Oui, vous savez, nous, on doit faire du mieux qu'on puisse dans le temps qui nous a imparti, avec les moyens qui nous sont donnés. Et c'est vrai qu'on avait une rencontre en Normandie et où le temps passait. Et lorsqu'ils sont arrivés pour passer à table, il nous restait moins de 15 minutes pour faire le repas. Un déjeuner en tête-à-tête, c'était à nous de faire en sorte qu'à partir du moment où ils avaient terminé l'entrée, on pouvait leur servir le plat et tout s'est très bien passé. Ça a pu être fait, on a pu mettre le terroir normand en avant ce jour-là et on était très contents du devoir accompli.
La reine d'Angleterre, tiens, en dehors des officiels français, c'est peut-être une des personnalités étrangères qui connaît le mieux les cuisines de l'Élysée, non?
Ah bah c'est sûr, la reine d'Angleterre a été le chef d'État qui a été le reçu par tous les présidents de la République depuis René Coty. Et vous savez, tout a de l'importance dans une visite d'État et chacun et chacune est à sa place et très investi pour justement mettre en avant la France.
Il y a quelques plats comme ça qui sont rattachés à des présidents. Alors évidemment, on pense tous à la soupe VGE de Bocuse. Ben, plus récemment, il y a la salade corrézienne de Jacques Chirac d'ailleurs. Oui. Il y a d'autres plats emblématiques comme ça sur les autres présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron.
On a eu, alors, maintes et maintes fois aussi, l'occasion de parler de la tête de veau sous Jacques Chirac. Enfin, Madame Chirac avait dit qu'il affectionnait énormément ce plat et partout où il allait, on lui servait de la tête de veau. Il aimait la tête de veau, mais c'était loin d'être son plat préféré. Et nous, à l'Élysée, on lui en a servi 2 fois et la 2e fois, il nous a dit c'était très bon, mais c'est plus la peine de m'en faire. C'est pas quelque chose que nous abordons, nous, les chefs de cuisine, tout simplement parce que c'est pas notre rôle. Si par exemple, je vais proposer, je sais pas, une volaille, un poulet rôti ou une volaille, peu importe comment est-ce qu'elle va être travaillée, je vais justement devoir la travailler de façon différente pour pas qu'il y ait une certaine lassitude qui s'installe. Et surtout, proposer avez des élevages différents, tout simplement pour mettre en avant tous ces élevages.
Et en même temps, les Français aiment la cuisine, ils aiment cuisiner. Est-ce que déjà, c'est arrivé que des présidents se mettent au fourneau pour le plaisir, pour eux-mêmes, à l'Élysée ?
Alors, Monsieur Béliard, je ne répondrai pas à cette question. Je laisse les différents présidents s'exprimer s'ils le souhaitent. Mais sachez que la cuisine de l'Élysée est ouverte, bien évidemment, à tous les présidents dès qu'ils souhaitaient passer nous voir, que ce soit pour nous saluer ou que ce soit pour cuisiner.
Je vous demandais pas s'ils repiquaient du dessert après le repas en douce. Hein.
J'ai bien compris votre question.
Je voulais terminer par une anecdote. On se souvient de la campagne de 2017. Vous voyez Emmanuel Macron sur une aire d'autoroute qui se réjouit de voir des cordons bleus industriels, Guillaume Gomez, et vous vous dites c'est peut-être lui que je vais servir bientôt. À ce moment-là, vous vous inquiétez ?
Le cordon bleu peut être un très bon plat à partir du moment où il est fait comme il faut avec des bons produits. Voilà, on en fait, on peut faire du cordon bleu maison. Mais sachez que le cordon bleu, il m'arrive d'en faire à l'Élysée et depuis de nombreuses années.
Et enfin, on va terminer par là parce que je crois que c'est l'un de vos plats préférés. Alors, il y a débat sur la façon de le dire. Pâté croûte, pâté en croûte. Vous dites comment, vous, Guillaume Gomez ?
Vous savez, alors là, autant on peut débattre pendant des heures et des jours sur pain au chocolat et chocolatine, autant je vous avoue que je n'ai pas d'avis sur pâté croûte ou pâté en croûte. Moi, je dis très souvent le pâté en croûte, c'est un plat qui est fabuleux parce que c'est un plat qui est en fonction de la saison et en fonction du lieu où vous vous trouvez. Que vous soyez à Lille, à Strasbourg ou à Marseille, il n'aura pas le même goût parce que ce ne sera pas les mêmes produits, ce ne sera pas la même façon de le faire. Et le tempérament, on va dire, du cuisinier ou de la cuisinière ne sera pas le même.
Guillaume Gomez, merci beaucoup.
Merci à vous, Monsieur Béliard. Passez une belle journée.
Et c'est quoi le menu aujourd'hui à midi à l'Élysée ?
Ah bah vous pensez bien, cher Mathieu Béliard, c'est toujours pareil. Si j'ai pu rester si longtemps à ce poste, parce qu'on ne parle jamais de ce qu'on va faire. Je peux vous parler de ce qu'on a fait, mais je ne vous parlerai jamais de ce qu'on va faire. À très vite.
Il me reste quelques heures pour me faire inviter. Merci Guillaume Gomez.
Je vous en prie, bonne journée.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Très secret, hein, ce Guillaume Gomez. Il y a des secrets, à mon avis, à aller creuser encore un peu plus, justement, sur la table de l'Élysée. Nicolas Bétou est en studio avec nous, l'édito politique de Nicolas, dans un tout petit instant. 7h50.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le calme semble être revenu dans la majorité présidentielle. Un peu comme après une forte tempête.
Ben oui, parce que depuis quelque temps, ça secouait à l'intérieur même de la majorité, aussi bien au Parlement qu'au gouvernement. Coup sur coup, les esprits se sont enflammés sur l'emprise de l'islamo-gauchisme à l'université ou sur l'absence de viande dans les menus des cantines de la ville de Lyon. Alors, c'était bien sûr pas la première prise de bec du quinquennat, mais désormais, ça cogne plus que ça ne débat. Et c'est ça qui est le plus marquant, ça, et le retour d'un clivage droite-gauche.
Oui, ce clivage que la Macronie entendait effacer ou dépasser.
Précisément, et qui au contraire se creuse de plus en plus comme si la vie commune entre marcheurs venus de la gauche et marcheurs venus de la droite devenait avec le temps plus difficile à supporter. Ça avait commencé un peu mezza voce après les déclarations de Gérald Darmanin regrettant que Marine Le Pen soit trop molle sur la lutte contre l'islamisme. Et ça a ensuite dérapé sur la laïcité dans les universités et sur l'écologie dans les assiettes. En fait, à chaque fois, sur des sujets très identitaires de la droite et de la gauche. Ce qui veut dire que c'est révélateur d'un mal profond.
Lequel ?
Eh bien, une absence de ligne politique claire sur ces sujets et de consensus dans la majorité. J'y ajoute une absence criante de bienveillance et d'empathie. Vous vous souvenez de cette nouvelle façon de faire de la politique que promettait En Marche. Et j'y ajoute enfin un manque évident d'autorité sur les troupes, sur les parlementaires et sur le gouvernement.
Alors, il y a quand même eu un rappel à l'ordre de Matignon à tous les ministres.
Oui, le cabinet du Premier ministre les a mis en garde contre les polémiques autoportées. Vous savez ce que c'est une polémique autoportée ?
J'aurais dit un couac.
Oui, voilà, un gros couac. Comme ceux que François Hollande avait fini par collectionner et qu'Emmanuel Macron observait alors avec une grande sévérité. Bon, c'est à lui maintenant de mettre de l'ordre dans cette majorité parce que plus on s'approchera des élections, plus chaque camp essaiera de peser en influence et moins ce sera supportable. Ça passe bien sûr par une mise au clair sur des sujets qui ne sont pas dans l'ADN du chef de l'État et sur lesquels il a même du mal à se positionner clairement. Et je pense en particulier à l'écologie, un thème sur lequel Emmanuel Macron a beaucoup fait sans jamais réussir à obtenir son label vert. Et ça risque à nouveau de provoquer des grincements de dents dans quelques jours seulement parce que ce sera le début de l'examen du projet de loi climat et résilience, qui pourrait bien être rebaptisé climat et dissidence.
Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Nicolas Bétou. Sur ces dissidences, j'interrogerai Marlène Schiappa, l'invité politique de la matinale, à 8h15 ce matin. Et justement, avant 8h tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui donc, Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Et c'est Alain Juppé qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Bédard, Monsieur Bétou. Bonjour Marlène Schiappa, qui doit nous écouter, qui a révélé que plus de 100 000 personnes étaient sous l'emprise de dérives sectaires. Écoutez, je crois être bien placé pour parler des sectes, parce que vous le savez, je suis moi-même chiantologue. Vous riez, je suis même archevêque général de l'église de chiantologie de Bordeaux. Où j'ai enseigné à mes disciples citoyens... l'art de devenir chiant, pour exemple, ne pas sortir après 17h30 parce qu'on veut faire absolument des devoirs avec les enfants, porter des pulls couleur framboise sur les épaules et des polos bleus au ciel avec le col relevé. Vous voyez, monsieur Bétou ? Dire oh là là, je vais être pompette après seulement le deuxième verre de vin. Quoi d'autre ? Lire les échos en pyjama rayure en écoutant un disque de Jean Ferrat. Et un de mes plus fidèles élèves, et j'étais heureux de l'entendre, c'est Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant d'interview, vous conviendrez, monsieur Béliard. Ah, il a fermé le jeu à toutes vos questions. Hein. Pourtant, c'est des questions secret. Passionnantes, du genre, est-ce qu'il y a des présidents qui viennent cuisiner eux-mêmes ? Non, il ne répond pas. Et qu'est-ce qu'on va manger à midi ? Vous lui demandez gentiment, qu'est-ce qu'on va manger à midi à l'Élysée ? Non, il ne répond pas, secret défense, vous pensez bien. Non, ça, c'est un véritable chiantologue. Un des plus brillants, il va être content.
Attention, monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur Juppé ou Nicolas Comte, vous faites attention, il m'a confié qu'il nous écoutait précisément à cette heure-ci.
Oui, écoutez, je le salue bien, je lui remettrai son adhésion gratuitement.
Voilà. Nicolas Canteloup, merveilleux Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale, parfois l'invité du tête-à-tête aussi. Ce matin, notez-le bien, 8h15, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Nicolas Canteloup, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presse. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Le vent a tourné, il venait du sud, il vient de l'océan. Résultat, les températures baissent. Nous avons une petite dépression, une minuscule dépression qui se centre maintenant sur la France et qui va gâcher le temps de ce vendredi, de ce jeudi déjà, puis ensuite de ce vendredi, même de samedi qui est dans le lot. On pourrait penser que samedi, il allait faire beau. Bien non, on en a plus pensé. Maintenant, non, on peut dire que ce sera quand même aussi assez humide, comme l'on dit. Aujourd'hui, ça va se gâter beaucoup plus franchement. Alors avec l'arrivée de la pluie là, cette fois sur la Bretagne, elle est déjà là, hein, je le disais, l'on dit Visio, Quimper, Brest sont sous des petites pluies. Et ensuite la côte normande, toutes les côtes de la Manche, la mer du Nord seront prises par les pluies, mais les pluies modestes. Hein. Sur la Loire-Atlantique, la veille de la Loire, la Champagne et les Ardennes, ce sera gris. Et puis nuageux sur le Poitou-Charentes, le Limousin, le centre et la région parisienne. De plus en plus nuageux au point que sur Paris, bien, il pleuvra peut-être ce soir quelques gouttes. Du soleil dans l'Est, du vent marin dans son domaine, et des températures maximales entre 12 et 20 degrés. Ça baisse, mais ça reste quand même très doux pour la saison, au-dessus des normales saisonnières. Tiens, on en reparlera peut-être tout à l'heure des normales saisonnières.
Merci mille fois à Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé.